jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Prenez-vous cette menace attentat au sérieux. Nous sommes avec François. Tiens, bonjour François, vous avez fait le 32-10. Je vous pose la question.
Oui, bah écoutez, oui, je suis. On a changé toutes nos habitudes avec mon épouse. On évite de sortir, d'aller dans les lieux publics.
Très bien, très intéressant, mesdames, messieurs, très intéressant. Vous restez avec moi, François. Voilà. Et vous, avez-vous changé aussi votre comportement quotidien? Vous nous appelez au 3210, sans plus attendre. C'est le rappel des titres. Je vous reprendrai dans un instant, François. C'est le rappel des titres avec vous, Céline Landreau.
Deux premières gardes à vue dans l'affaire Lina, 6 mois après la disparition de l'adolescente dans le Bas-Rhin. 3 personnes sont actuellement interrogées par les enquêteurs, et cela depuis ce matin. Lina, 15 ans, a disparu alors qu'elle allait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. C'était le 23 septembre dernier. Le chiffre signe un échec du gouvernement selon les oppositions. Le déficit public s'établit à 5,5% du produit intérieur brut l'an passé. Selon l'INSEE, c'est loin, bien loin des 4,9% prévus par l'exécutif. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était ce matin sur RTL. Il écarte les hausses d'impôts mais prévient qu'il faudra faire des coupes dans les dépenses publiques. Et puis le foot, opération rachat pour les Bleus qui vont devoir se rassurer ce soir face au Chili. Après leur défaite 2-0 face à l'Allemagne, les hommes de Didier Deschamps affrontent les Sud-Américains à Marseille et c'est le dernier match avant la liste des joueurs convoqués pour l'Euro. Ce sera à vivre sur RTL. RTL Foot, c'est dès 20h45. La météo cet après-midi, Peggy Broche, ça reste bien bien humide, on garde le parapluie à portée de main.
Exactement, bien gris et pluvieux avec une bande pluvieuse entre le Languedoc-Roussillon remontant vers le massif central et le nord du pays, avec des pluies soutenues sur les Cévennes, également sur le massif central, localement orageuse, de la neige en montagne. Et cette limite pluie neige va s'abaisser dans l'après-midi et dans la soirée, donc un phénomène à surveiller. Beaucoup de vent entre la Méditerranée et le massif central. Et puis de part et d'autre, sur la façade atlantique, par exemple, les pluies sont beaucoup plus éparses, avec peut-être quelques timides éclaircies entre la Bretagne et la Gironde. Et on a un temps plus sec, mais bien couvert entre les frontières du Nord et l'Alsace. Tout ça sous des températures en baisse, 8 à Tours seulement, 10 au Havre, 11 à Rennes, 12 à Paris, 14 degrés à Lyon ainsi qu'à Perpignan et Nîmes, 15 à Marseille, 16 à Nancy, 18 à Besançon, ça reste doux sur l'Est, 19 à Grenoble et à Ajaccio. Et je rappelle que l'Hérault reste en vigilance orange vague submersion jusqu'à 14h.
Merci.
Merci Peggy Broche. Et à demain, Céline Landreau. Ah, vous vouliez poser des questions sur demain?
En fait, c'était juste pour savoir s'il fallait mettre un pull, une capuche. Peggy, demain?
Ah bah oui. Demain, les températures sont en baisse. Ce sera la journée la plus fraîche. On paiera 2 degrés et on garde le parapluie parce que ce sera indispensable. Tout le monde aura droit à son lot d'averses.
Vous voyez, j'ai voulu vous éviter ça. Voilà, vous voulez l'entendre? Vous voulez l'entendre? Vous l'avez entendu?
Je sais
pas.
Elle est prévenue, voilà.
Donc, merci, à vous, Peggy. Ça n'est pas la peine de revenir. Si
j'ai bien compris.
C'est ce genre de choses.
Allez, à bientôt.
Merci, Peggy. Et à demain, Céline Landreau.
À demain.
Je salue l'arrivée dans ce studio de Lisa Marie Marquez.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le répondeur des auditeurs ont la parole.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire était l'invité de RTL ce matin, alors que le déficit de la France en 2023 s'affiche à 5,5% du PIB. Et la question maintenant, c'est comment faire des économies? Ça fait beaucoup réagir nos auditeurs au 3210. Écoutez d'abord ce message laissé par Michel.
Bonjour, j'invite monsieur Bruno Le Maire qui nous annonce une catastrophe supplémentaire. J'invite ce monsieur à réviser sa copie, à refaire du calcul. Et il serait souhaitable, afin de faire des économies, d'arrêter de taper dans la poche du contribuable qui est taxé sur l'alimentation, sur l'essence, sur son salaire, tout ce qui s'ensuit. Nous sommes taxés dès que nous entrons en vie.
Bruno Le Maire s'est dit contre une hausse des impôts, ce qui a mis très en colère Nicolas.
Qu'on arrête de dire qu'on va pas augmenter les impôts, parce que le problème c'est le pouvoir d'achat, c'est pas les impôts, on s'en fiche. Et puis qu'on arrête de nous prendre pour des quiches depuis tout le temps, quoi. Faut arrêter.
Le ministre de l'économie a également évoqué la possibilité de rembourser différemment les dépenses de santé. Et ça ne plaît pas du tout à Nicole, qu'il nous l'a fait savoir au 3210.
Oui, bonjour. Moi, je viens d'écouter Bruno Le Maire, notre super ministre de l'économie. Et je suis vraiment écœurée de voir qu'il faut toujours demander à ceux qui se serrent déjà la ceinture de la serrer encore un petit peu plus. Comme disait Coluche, il vaut mieux prendre l'argent chez les pauvres, ils sont plus nombreux. Qu'est-ce qu'on rigolerait encore s'il était là?
Et comme Nicole, Michel et Nicolas, on attend vos réactions, votre opinion. Venez prendre la parole sur RTL. Pour cela, vous composez le 3210 et vous pouvez aussi nous écrire sur l'application RTL. Nos standardistes Margot, Cerise, Enzo et le chef du 3210, Victor, attendent vos appels et vos messages.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Ce contexte attentat, hein, deux tentatives déjouées depuis le début de l'année, le Premier ministre qui parle de menace terroriste, est-ce que vous prenez cette menace au sérieux? Est-ce que vous allez changer vos habitudes? Nous sommes avec François. François, vous êtes de quel coin, mon cher François?
Je suis sur côté de Nice, entre Nice et Aix-en-Provence.
Voilà. Nice, vous avez eu, c'était en 2016, me semble-t-il, un terrible attentat, bien sûr, le camion sur la...
87 morts et 410 blessés.
Ouais. Vous étiez à Nice à ce moment-là?
J'ai...
Oui, je vous entends mal, François.
Excusez-moi.
Ah.
J'étais au milieu de la foule.
Ah, vous étiez là, vous avez été, vous avez vu cette scène, vous avez été blessé vous-même, François?
Alors, j'ai sauvé mon épouse du camion quand il est arrivé sur nous. Excusez-moi, je prends un petit verre d'eau. Ça,
je vous en prie, François.
Voilà, nous étions... Nous avons été avec mon épouse voir le feu d'artifice. On était à Nice, on avait un studio sur la promenade des Anglais. Et on avait été voir le feu d'artifice, et quand on est revenu avec mon épouse, il y a eu un souffle et j'ai poussé mon épouse derrière nous. C'était un champ de mort.
Et vous avez sauvé la vie à votre épouse en la poussant, c'est ça?
Oui, tout à fait. Excusez-moi, j'ai encore...
Non, mais je vous excuse parfaitement, vous plaisantez, vous plaisantez, quelle formule, mais vous êtes en train de me raconter que vous avez vécu l'horreur, et je peux comprendre que vous soyez totalement ému et déstabilisé. J'imagine, François, d'abord, pardon, on va rester quelques instants sur 2016, et après on va revenir à la menace attentat aujourd'hui.
Voilà,
donc, vous poussez votre épouse, vous lui sauvez la vie, vous voyez le souffle de ce camion qui passe... À quelques centimètres de vous.
Oui, alors on était dans le, comme ils disent, dans le cercle 1, c'est-à-dire entre 1 mètre et 5 mètres du camion.
Oui.
Voilà, quand j'ai. Bah après, j'étais voir ce que je pouvais faire. Derrière moi, j'avais un petit gamin d'une dizaine d'années. Enfin, j'avais été tué. J'ai vu des choses atroces. Je dis que beaucoup de pompiers, même alors qu'il est, et des gens du SAMU sont encore soignés pour ça.
Vous, ça vous a... Donc vous avez eu cette expression il y a quelques secondes. Vous m'avez dit, j'ai vu un champ de mort.
Un champ de mort, oui. Oui, quand vous avez 87 morts, 410 blessés, des gens qui ont plus de jambes. J'ai vu une femme qui était dans un banc, déchiquetée, enfin des choses affreuses.
Comment on vit avec ça, François? C'était il y a 7 ans?
Oui, il y a 7 ans. Bah, écoutez, on est toujours soigné avec mon épouse. De temps en temps, j'ai des coups de stress. Donc, heureusement, j'ai des amis qui sont médecins. J'ai des pompiers qui sont sympas, qui viennent me chercher, qui m'emmènent à l'hôpital, parce que le stress, ça vous ronge un peu partout. Mais on est vivants tous les deux avec mon épouse, et je pense à toutes ces victimes. D'ailleurs, je pense à toutes les victimes du terrorisme. Une pensée pour eux. Voilà, mais...
J'imagine que quand on monte, on hausse le niveau de menace terroriste en France et qu'on décrète la situation d'urgence attentat, j'imagine que chez vous, ça a une résonance très particulière.
Alors c'est très fort, puisque je vais vous dire une chose, c'est que même quand il y a des gosses qui sont tués ou des gens qui sont tués à coups de couteau parce qu'ils pour une place sur un supermarché ou parce qu'ils roulent vite. J'ai des yeux, je me mets à pleurer parce que je me dis, le monde est fou. Voilà, c'est mon mot, le monde est fou. Et c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Mais je pense que le risque terroriste, il est là.
Restez avec nous, François. Restez avec nous parce que je suis extrêmement ému. Je ne m'attendais pas du tout à vous avoir au 3210. Vous qui avez vécu l'attentat de Nice, la course folle de ce terroriste en 2016. Restez avec nous et vous aussi, d'ailleurs, appelez-moi. Mesdames, messieurs, prenez-vous cette menace au sérieux et surtout, allez-vous changer vos habitudes, faire plus attention. À tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
À la question, allez-vous faire plus attention? Je ne vois pas comment on pourrait faire attention. Dans la mesure où ça peut taper n'importe où, n'importe quand, sur n'importe qui.
craignez-vous un attentat sur le sol français? Oui, c'est Eric qui nous laisse à l'instant ce message. C'est dur, hein. Moi, hier soir, une de mes filles allait assister à un concert. J'ai réfléchi, je dis, est-ce que je lui interdis d'y aller? C'est une attitude complexe, François, c'est difficile. Vous qui avez vécu l'attentat de Nice et qui êtes toujours traumatisé par cela, est-ce qu'il faut s'interdire de sortir dans les lieux publics, par exemple, François?
Non, parce qu'on ne vivrait plus. Alors c'est vrai que je pense à tous ces jeunes qui vont en concert, qui sortent... Mais ça peut arriver n'importe où, ça peut arriver dans un petit magasin, dans un grand magasin, ça peut arriver dans un tunnel d'autoroute, on ne sait pas, vous savez, voilà. Bon, je pense que le risque zéro n'existe pas.
Est-ce que vous, François, vous qui avez beaucoup souffert, vous me l'avez dit, des conséquences d'avoir été présent simplement sur la croisette à Nice, est-ce que vous avez changé vos habitudes?
Alors, on ne va plus au cinéma, parce que je rentre dans un cinéma, j'ai...
La promenade des Anglais, pardonnez-moi, j'ai dit la croisette, oui. C'était la promenade des Anglais, bien sûr, voilà. À Nice.
Donc, on ne va plus au cinéma, on ne va plus au théâtre, parce que le peu de fois qu'on est au théâtre après, je regarde où sont les portes de sortie, je me mets toujours en bordure de... Voilà. C'est vrai que... On fait attention un petit peu à tout, un camion qui est tout seul, qui tourne tout seul dans une rue où il y a du monde, et ben malheureusement c'est un camion qui va décharger, mais on y pense, ça peut être une bombe qui est dedans. Voilà. Voilà notre quotidien.
Restez avec nous, François. Mon Dieu, que je comprends ce traumatisme. Comment sortir de ça quand on a vu ce que vous avez vu, c'est-à-dire un champ de mort, vous avez dit. Elda m'appelle, elle a fait le 32-10. Ma chère Elda, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Je rappelle le contexte. La menace terroriste islamiste est réelle et elle est forte et elle n'a jamais faibli, a déclaré le Premier ministre lors d'une visite. C'était hier et surtout il réagissait à l'attentat de Moscou qui a fait... le bilan était de 139 morts officiellement hier, mais je crois que ça monte d'heure en heure et de jour en jour. Elda, est-ce que vous allez changer votre comportement?
Alors je suis de l'avis de François, parce que c'est difficile de changer de comportement. Moi, toujours est-il que je fais très attention dans tous les lieux de voyage. Par exemple, dans une gare, dans le métro, dans tout ce qui concerne le voyage, j'ai peur. Donc je regarde tout le monde, je surveille les personnes à l'affût de... En fait, j'ai vécu un petit peu... la nuit du Bataclan, parce que mon fils était dans la rue parallèle du Bataclan, et ils sont restés, ils ont couru, ils ont tout entendu, ils ont couru, se sont réfugiés dans une cuisine d'un restaurant. Et après, on n'a pas eu de nouvelles de toute la nuit, et moi je suis restée toute la nuit avec sans nouvelles. Donc on a vécu une nuit d'horreur, parce que bon, on ne savait pas où ils étaient, on ne savait pas ce qui se passait, il entendait les coups de feu. Quand je l'ai eu au téléphone, il entendait tout, ça tire, et il courait. Donc depuis... bien sûr, on est. J'ai un fils qui habite Nice et aussi, ils sont pas allés ce soir-là, heureusement, mais on le savait pas, donc on était dans l'inquiétude. Donc depuis, il est resté des inquiétudes constantes et puis les actualités, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Bien, je me dis, personne n'est à l'abri, mais personne ne peut prévoir. Donc changer les habitudes, je sais pas, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire parce que ça peut être n'importe où.
Vous dites il faut faire attention, mais comment faire attention, Elda?
Comment faire attention? Moi, toujours...
Vous vous regardez, vous surveillez les sacs abandonnés, les choses comme ça, mais...
Plus les personnes. Plus les personnes. Et ce que je pense toujours, c'est que je me dis... S'il y avait quelque chose avec une personne, un kamikaze, ou enfin j'en sais rien, quelqu'un qui ferait quelque chose dans un lieu public, je me dis d'essayer de concentrer les personnes autour de moi pour les motiver, pour se défendre, pour essayer de trouver des solutions. Je pense toujours à ça, toujours.
Oui.
Parce que je me dis, c'est s'aider, s'entraider, peut-être arrêter, ou je sais pas, dans ma tête, c'est il faut pouvoir intervenir si on peut. Et bien sûr, si on ne peut pas, quand c'est plus grave comme ce qu'on vient d'entendre, ce qui s'est passé à Moscou, on ne peut pas faire grand-chose. Mais toujours dit, il y a ce jeune qui a sauvé ces gens en les faisant passer par une issue de secours. Je pense à tout ça, vraiment. Mais régulièrement, pratiquement tous les jours, et surtout quand je pars en voyage.
Oui. Elda, vous habitez dans quel coin de France, Elda ?
Dans le Gard.
Dans le Gard. Vous êtes à Nîmes ou dans une petite commune ? Oui, dans une petite
commune. Dans une petite commune entre Nîmes et Avignon.
Vous croyez que le terrorisme peut s'inviter dans des petits villages ?
Petits villages ?
Ben, il y a eu, cela dit, il y a eu des cas de personnes poignardées et même tentatives de décapitation dans des tout petits villages.
Oui.
Il y en a eu.
Je pense aux écoles, bien sûr, parce que malgré tout, les écoles, on y pense. Hein. Bon, il y a un plan Vigipirate assez. Mais il y a aussi les églises. Donc moi je suis pratiquante, donc toujours j'y pense. Là c'est pas que je me dis pas que avec tout ce qui se passe, voilà, même surtout sur Paris, les grandes églises.
C'est intéressant parce que au fond vous me dites que depuis que cette menace attentat existe depuis des années, vous avez perdu au quotidien une partie de votre insouciance, de votre indolence, de ce qui fait finalement le sel de la vie, quand on est heureux, quand on est joyeux dans l'espace public, dans la rue, etc. Vous me dites que vous avez toujours quelque chose en vous qui vous conduit à surveiller, à regarder. Elda. Eh bien, on a perdu Elda. Ah ben c'est pas grave. Elda, votre témoignage était très fort. Merci de nous avoir appelé. Et on va prendre Quentin qui a fait le 32-10. Mon cher Quentin, bonjour. Où êtes-vous ?
Sur Paris, mais plutôt habituellement sur Lille.
D'accord, Paris-Lille. Craignez-vous un attentat sur le sol français ? Prenez-vous cette menace au sérieux ? Et allez-vous ou avez-vous changé vos habitudes ?
Alors écoutez... J'ai la particularité d'être régulièrement de dispenser des formations sur le risque terroriste et sur la façon dont il faut se comporter.
Ah bon, c'est votre métier ?
Oui.
Ah, intéressant.
Oui.
Alors, vous savez quoi ? Passionnant. Vous allez me dire ce que vous apprenez aux gens à qui vous enseignez le risque terroriste. C'est qui vos clients ? C'est des gens dans le monde de l'entreprise, des salariés, etc., que vous formez, c'est ça ?
Oui, c'est des entreprises qui sont plus ou moins exposées ou des corps de métier. Comme la sécurité privée, qui sont confrontés, sont plus ou moins intervenants potentiels régulièrement.
Ah, génial, vous allez nous raconter ça dans une seconde. Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Quelles sont les choses qu'il faut apprendre face à la menace et au risque terroriste ? Quentin est formateur, restez à l'écoute, il vous dira. A tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Éric Brunet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Des tentatives d'attentats déjouées, le Premier ministre a annoncé hier que des moyens exceptionnels seraient déployés partout sur le territoire en France, avec 4000 militaires supplémentaires en alerte. Est-ce que vous avez changé vos habitudes ? Est-ce que vous faites plus attention ? Victor, au standard, nous avons des messages écrits ?
Nous avons des messages écrits. On commence avec celui de Marjorie Dufond de ma campagne perdue. Je ne me sens pas directement concerné par le terrorisme, mais il est vrai que j'y pense quand il s'agit d'aller à un concert à Paris. Vincent, je n'ai pas changé mes habitudes, c'est ce que les terroristes veulent, ce serait leur donner raison. Et puis un autre sujet qui commence un petit peu à vous faire réagir sur notre page Facebook, on en parlera peut-être après 14h, les pièces détachées automobiles d'occasion, 71% des Français se disent prêts à en acheter selon une étude du site d'e-commerce eBay. Et José nous répond, c'est le portefeuille qui nous y contraint. Appelez-nous au 3210, Enzo, Margot et Cerise vous attendent.
Bien, nous parlerons effectivement de ce sujet si vous le souhaitez, mesdames, messieurs. Pour l'instant, Quentin, donc vous êtes formateur sur le risque terroriste. Quentin, donnez-nous des ficelles concrètes, des choses que vous apprenez aux gens que vous formez, par exemple dans les entreprises de sécurité, les salariés qui sont exposés. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors vous résumez entre 7 et 14 heures de cours en quelques minutes, ça va être compliqué. Mais pour faire une initiation complète et comprendre... Et comprendre l'état des lieux de l'état de la France aujourd'hui, il faut un petit moment. Il y a une règle intéressante qu'on peut peut-être évoquer assez rapidement, c'est la règle des 3 C. Vous savez, il y a un contexte. Le contexte, pour le coup, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. On a aujourd'hui en France un contexte particulier avec des expositions multiples liées à la géopolitique et liées à plein de phénomènes aussi de groupes au sein de nos frontières.
Oui.
Et on a le deuxième C qui s'appelle le cumul. Et le cumul, pour le coup, avec tout le respect que je dois à tous ceux qui voudraient vivre au pays des bisounours, le cumul, on va y aller en courant dans peu de temps là, parce que le cumul, On va parler Roland Garros, on va parler JO, on va parler commémoration du 80e anniversaire avec les chefs d'État en France.
Du débarquement.
Tout à fait. Ouais. On va parler du Tour de France. On va vraiment réunir le 14 juillet, tiens, pourquoi pas. On va vraiment réunir un paquet d'événements qui sont propices au ciblage idéal de la frappe aveugle et qui est d'autant plus efficace quand il y a plus de cibles réunies au même endroit. On va courir assez rapidement vers toutes ces possibilités que j'espère ne pas voir se réaliser.
Alors vous avez parlé du contexte effectivement avec des groupes terroristes un peu partout, en tout cas une idéologie qui prospère et qui se développe. Voilà. Du c'est cumul, vrai. Effectivement, c'est une grande année de joie, disons-le, pour la France avec les Jeux Olympiques, plein d'événements plutôt joyeux. Donc on a envie de frapper quand on est un apprenti terroriste ou un vrai terroriste, on a envie de frapper là où les gens ont du bonheur. Et le troisième C ?
Le troisième C, c'est la congruence. Et justement, c'est un schéma qu'on fait apparaître en formation.
La congruence, en fait, qu'est-ce que c'est que la congruence ?
Ben, c'est la résultante de tous les éléments qui favorisent l'avènement de la frappe.
D'accord.
Et donc, on se rend compte, en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant, en tout cas, ce qu'on vit actuellement, ce qu'on vit aujourd'hui en particulier, avec cette réhausse du plan Vigipirate à son niveau maximum, c'est que, vous savez, le schéma apparaît sous forme d'un engrenage. On a trois roues. On a la roue du contexte. La roue du contexte, actuellement, dans les cours qu'on donne, on explique qu'on ne peut pas l'enlever, la roue du contexte. Elle est comme ça, elle est implantée, elle est comme ça pour plusieurs années encore, parce qu'on est dans un monde compliqué, parce qu'on est dans un monde avec... Voilà. Et on fait apparaître la troisième roue, la roue de la congruence, celle qu'il ne faut pas faire tourner. C'est-à-dire qu'elle est généralement...
La congruence, c'est le fait de faire que les choses se coïncident, arrivent, surviennent, oui, c'est ça. Voilà. Mais alors, attendez, j'ai bien compris, et on ne va pas résumer vos 14 heures de cours que vous donnez, de formation, mais en fait, vous êtes en train de me dire que de plus en plus d'entreprises sont intéressées pour former leurs salariés au risque terroriste, à comment agir si un attentat terroriste survient et que vous êtes au milieu de ça. C'est ça l'idée, parce que ça, c'est un marqueur de l'inquiétude de la société française.
Mais vous avez parfaitement raison. À l'époque, c'est pas si vieux que ça, mais je dirais, moi je travaille sur ce sujet depuis 2010, mais depuis deux ans, je dirais, depuis trois ans, on avait surtout des publics d'entreprises qu'on appelle des publics d'activités d'importance vitale, et qui ont des activités très particulières qui pourraient mettre la France en carence si l'activité s'arrêtait. Et on avait donc des entreprises plutôt ciblées avec des choses particulières. Mais depuis sur les 12 derniers mois, et ça s'accélère actuellement quand on regarde ce qu'on appelle chez nous les appels entrants, on a maintenant la grande distribution, les grandes surfaces, les centres commerciaux qui sont de plus en plus à se poser la question.
Mais qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, à des caissières qui travaillent chez Intermarché, Auchan, Carrefour, que sais-je? Vous leur dites quoi? Vous leur dites, plongez sous la caisse s'il y a quelque chose, s'il y a un fou qui arrive avec un couteau? Vous leur donnez des conseils de ce niveau-là?
Alors, vous êtes déjà très très loin dans le processus. On va d'abord aiguiser les gens, enfin aiguiser le regard des gens sur la capacité à capter des signaux.
Oui.
C'est important qu'on ait
C'est ce que me disait tout à l'heure Elda. Elle regarde des visages, des gens, les yeux.
Mais on a pris du retard par rapport à nos camarades de classe.
C'est quoi des signaux ?
Des signaux, qu'on appelle des signaux faibles, c'est un comportement inadéquat. C'est souvent aussi, on n'y pense pas, mais des vêtements qui sont pas trop en phase avec la saison ou qui sont supposés masquer, cacher un embarquement de l'armement, des munitions. Des vêtements trop longs, des vêtements sombres, 9 fois sur 10, une tête dissimulée sous une casquette, sous un bonnet. Et puis plein d'éléments qu'on explique en profilage prédictif, mais qui font que l'individu se sent moins épié et il se sent plus libre de ses mouvements.
C'est dingue, Quentin, qu'il y ait des formateurs au risque terroriste. Quentin, restez avec nous. François, qui était avec nous tout à l'heure et qui a vécu l'horreur de ce camion fou terroriste en 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. François, on en arrive maintenant à avoir des gens qui forment, pas des entreprises de sécurité, des simples salariés, par exemple, dans la grande distribution, au risque terroriste, au comportement à avoir, François. C'est dingue. Quand on y réfléchit.
Oui, quand on réfléchit à ça, je trouve qu'on est sur un autre monde. Parce que
c'est vrai, il faut penser aux caissières, mais il faut penser à un couple qui se promène le soir, qui est bras dessous, qui y a quelqu'un qui survient, comme c'est arrivé sur un pont à Paris, qui s'est fait tuer à coup de couteau, à coup de marteau. C'est-à-dire que je crois que c'est un petit peu partout. Ça peut être aller dans un cinéma, un supermarché, ça peut être... Ça peut être à Paris, il va y avoir avec le, ce qui va se passer. On ne sait pas. Je pense que faut être vigilant pour
vigilant,
tout.
Il faudrait presque que chacun apprenne les gestes dans son quotidien, pas forcément dans le monde de l'entreprise. Ça devrait peut-être être une formation nécessaire pour tous les Français, ce qui est complètement fou quand on y pense. Restez avec nous, François, Quentin. À tout de suite.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour RTL, moi je suis à Nice, j'ai entendu deux auditeurs. J'ai toujours en moi un copain avocat qui a eu le camion à 10 cm de sa personne et qui est toujours en traitement actuellement.
Eh oui, un copain avocat, le camion, c'est celui de la promenade des Anglais, l'attentat terroriste 2016. C'était il y a 7 ans, et ce Jean-Luc, là, qui vient de nous laisser ce message, il nous explique que son copain, 7 ans plus tard, cet avocat est toujours en traitement. Laurent a fait le 32-10, mon cher Laurent. Bonjour et bienvenue dans Les Auditeurs ont la parole.
Oui, bonjour Monsieur Brunet, bonjour aux auditeurs. Mon soutien à François, mon soutien à l'ami avocat du monsieur qui vient d'intervenir également. Je vais être pragmatique, je vais être efficace. Je suis ancien sous-off de parachutiste. Je rentre dans une pièce, je regarde tout de suite où se trouve la sortie. Je mémorise si je dois y retourner pour une salle de cinéma ou autre. J'ai appris à vivre avec ça. On vit très bien, mais il y a des réflexes à acquérir. Votre intervenant tout à l'heure, qui est formateur, a résumé. Oui, on devrait tous acquérir ce genre de réflexes.
C'est-à-dire, vous rentrez, vous allez vous faire une toile tranquillement, en famille ou tout seul.
Mon premier réflexe est de regarder où sont les issues.
Ouais.
Et voilà.
Bon. Non, mais j'ai été formé là-dedans, pardon, hein, je suis désolé de... Bon, c'était le boulot. Il fallait tuer pour pas être tué. Donc on était formé là-dedans et ça devient un réflexe. Alors ma compagne me dit toujours, tu vois le mal là où il est pas. Mais je garde toujours, j'évite les endroits où il y a trop de foule. Et pour revenir à votre sujet, c'est un jeu de chat et de souris. Vous avez beau être le plus gros chat, vous n'aurez jamais toutes les souris. Donc on va avoir pour les Jeux Olympiques, c'est une telle vitrine. Pardon, je vais être froid et pragmatique.
Mais allez-y, hein, vous avez raison.
Mais il faut l'être avec des gens comme ça. C'est une telle vitrine. Vous allez avoir, ça se compte en millions de gens ou en milliards de gens qui seront devant leur télévision. Je pense que le plan est déjà à l'étude. Alors vous avez trois possibilités. Vous envoyez une équipe qui est suicidaire, vu que la vie n'a aucun prix pour ces gens-là. Vous envoyez une équipe suicidaire. Vous aurez autrement des agents, ce qu'on appelait autrefois des agents dormants.
Oui.
C'est-à-dire des gens qui sont implantés dans la société, qui vont se réveiller. Et vous aurez des gens genre Sheeran, je crois qu'il s'appelait comme ça, pour assassiner le chanteur des Beatles, qui voudront se faire mousser.
Ah oui, pour John Lennon. Oui, mais alors, ce qu'on redoute le plus, c'est cette espèce de terrorisme low cost aussi, où des gens, comme
voilà,
ça, des jeunes,
de moyens,
souvent des jeunes
de
qui sont insérés dans la vie sociale, qui peuvent très bien être à l'école ou bien travailler, vont soudainement passer à l'acte alors qu'ils ne sont même pas repérés par l'État islamique ou par...
Et ils feront allégeance ensuite et ça se fera à coup de couteau, à coup de marteau avec les moyens du bord.
Ouais.
Mais vous avez une efficacité quand même et vous faites de la pub.
Ouais, moi
pardon, hein, vous. Ouais. Je suis désolé d'être froid comme ça. J'espère qu'on n'aura pas à parler de ça, à se rappeler. Mais je pense que c'est déjà programmé. Enfin, c'est déjà à l'étude.
Ouais. Moi, j'ai vu, Laurent, une vidéo que j'ai regardée 30 secondes après j'ai éteint mon smartphone qui m'a été envoyée de l'attentat filmé par les terroristes eux-mêmes. De Moscou.
Ah mais ça fait froid dans le dos, mais c'est le principe de base. Il faut que vous fassiez votre publicité au maximum. C'est tout. C'est, il faut. Alors, votre.
Vous viendrez pas au JO, par exemple, assister aux épreuves.
Moi, bon, j'évite déjà Paris, mon pauvre ami. Ouais. J'évite déjà Paris pour faire mes livraisons. Je donne rendez-vous en périphérie de Paris à mes clients, parce que ça devient impraticable.
Cela donc, dit, moi, je refuse quand même, sauf quand le risque est très, très élevé, mais je refuse de ne pas vivre. Je refuse de
renoncer
votre
à vivre. En parenthèse, bien sûr. Ouais. On met pas sa vie en parenthèse, mais il faut garder. Garder les yeux, comme disaient les Américains, wide open, toujours ouvert, et regarder les trombines, ce que disait votre... Enfin, pardon, les trombines,
Les visages, les regards, les yeux, le look, ce que disait Quentin, ce que disait Elda, dès qu'elle arrive dans une gare, elle regarde à droite, à gauche, les gens dans les yeux, c'est pas idiot, c'est
la
pas
tenue,
stupide.
Vous mettez pas un imperméable un jour d'été, sauf pour cacher un fusil de chasse à pompe... ou autre chose.
Ouais. Merci Laurent, merci beaucoup, j'essaie de faire tourner la parole car on a d'autres appels. Élodie, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Est-ce que vous allez changer vos habitudes compte tenu de cette élévation du risque terroriste en France ?
Alors moi je suis partagée entre les deux parce que je me dis que oui, je vais faire attention, mais faire attention à quoi ? C'est quand même très compliqué de faire attention.
C'est le sujet. Là.
Voilà, mais d'un autre côté, moi je me dis que si on arrête de vivre, eh ben ils gagnent. Parce que dans le terrorisme, il y a terreur, et moi, je refuse de vivre dans la terreur, quoi. Moi, vous savez, j'ai deux enfants, j'en ai un de 6 ans, un de 3 ans. Il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Annecy, parce que moi, je suis sur Annecy, il y a eu quelque chose d'atroce.
Annecy, bien sûr.
Passé dans un parc au bord du lac d'Annecy, dans une bulle, avec des enfants qui jouent, dans un paysage absolument extraordinaire, sublime. Et avec mon mari, on a pris les décisions, parce qu'on allait régulièrement dans ce parc, d'y retourner. Parce que il faut continuer à vivre. Vous pouvez pas vivre dans le terreur. Enfin, moi je sais pas. Je vais pas arrêter de sortir mes enfants parce que déjà vous leur expliquez à ces enfants qu'il faut pas parler à des inconnus, qu'il faut faire attention aux sorties d'école et tout. Mais enfin, c'est pas bon non plus. On a vécu enfermé pendant quelques mois suite à un confinement. Je vous signale quand même que les effets sur les personnes n'a pas été bon non plus. Donc je pense qu'il faut faire attention, effectivement, mais moi, faire attention à quoi le réflexe de votre auditeur précédent est juste incroyable. Moi, je vais au restaurant, j'ai pas le réflexe de regarder les sorties, quoi. Je vais au restaurant, je suis avec mes enfants, je vais passer un bon moment avec des amis, mais j'ai pas le réflexe de regarder les sorties et les issues de secours, quoi. Alors, est-ce qu'il faut changer nos habitudes de vie? Est-ce qu'il faut s'adapter? Oui, mais continuer à vivre? Oui aussi, quoi. Qu'est-ce que je vais leur offrir, moi, sinon, à mes petits-enfants, moi ?
C'est vrai que les perspectives ne sont pas réjouissantes si quand on commence déjà à leur dire... Il y a des cours à l'école, hein. S'il y a un gros boom, s'il y a telle sonnette de la cour de récré qui sonne, ça veut dire qu'il y a une intrusion, il faut vous mettre sous la table, etc.
Ils ont des cours, mais enfin, c'est vrai que moi, en plus, ils s'en souviennent. Mon petit garçon, il avait 5 ans et demi à l'époque, c'est sur Annecy, il s'en souvient exactement. Ils ont été confinés parce qu'on savait pas où, parce qu'on avait, il y avait plusieurs rumeurs qui avaient été lancées, donc il a été confiné dans la cour, ils ont été dans les salles, pardon. Donc il s'en souvient. Mais moi, vivre comme ça, c'est pas une vie, Eric, enfin, franchement.
Oui, je suis d'accord avec vous, Élodie. Je suis bien d'accord avec vous. La résistance, c'est aussi conserver cet art de vivre à la française que nous aimons tant et qui déjà est vraiment altéré par toutes les questions pouvoir d'achat, économie. Mais si on pouvait, par ailleurs, ne pas vivre avec la terreur chevillée au ventre, ça serait pas plus mal. Vos appels étaient très enrichissants au 3210 sur ce premier thème. On va continuer dans un instant avec Bruno Le Maire. Énorme déficit public. Alors le ministre de l'économie dit il va falloir faire des efforts. Il exclut les hausses d'impôts, mais il dit les dépenses de santé, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne en charge un petit peu. Qu'en pensez-vous ? Où est-ce qu'il va falloir faire des économies ? À tout de suite.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Ah, il faut que je vous dise une chose, les amis. À l'occasion des fêtes de Pâques, vous savez que RTL offre aux auditeurs qui interviennent à l'antenne aujourd'hui un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. J'y tiens beaucoup à cette tradition, RTL, et tous ceux qui ont commencé à appeler depuis le 3210, qui sont passés à l'antenne, ont gagné leur assortiment, un assortiment de chocolat de Pâques qui comprend une grande variété de recettes, avec du praliné, les iconiques lapins en guimauve enrobés de chocolat. Voilà, tout ça à chaque fois que vous appelez le 3210. Bruno Le Maire était ce matin l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 dans la matinale d'RTL. C'est important, hein. Il faut, nous dit le ministre, fournir des efforts supplémentaires, car le déficit public est gigantesque, écoutez-le.
Très concrètement, sur le médicament, désolé, le médicament, ça ne peut pas être open bar. Regardez tous les médicaments que vous accumulez dans votre pharmacie. Ça a un coût, c'est vous qui êtes payé, c'est le contribuable qui
paye. Est-ce qu'on peut imaginer des remboursements selon les revenus, par exemple ?
Je suis ouvert à tous les débats. Ce n'est pas à moi de trancher comment est-ce que les économies vont être faites. Ça doit être un débat collectif. J'appelle à une prise de conscience collective sur la nécessité de faire des choix dans nos dépenses publiques.
Tiens, Philippe a fait le 32-10. Bonjour, mon cher Philippe.
Bonjour, ça va bien ?
Très bien, et vous ?
Bah écoutez, ça va.
Vous êtes dans quel coin ?
Je suis entre Lille et Dunkerque.
Entre Lille et Dunkerque. Payez plus les médicaments pour faire des économies à la Sécu et à l'État. C'est une bonne idée ?
Bah, en gros, juste la question à Monsieur le maire, est-ce que les Français aujourd'hui payent pas assez ? Augmentation de l'électricité, augmentation du panier dans les supermarchés, augmentation de ci, de cela, la taxe d'habitation qui avait arrêté, mais entre temps, les communes, comme elles ont besoin d'argent, elles augmentent les impôts locaux. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'on paye assez, mais je pense qu'au bout d'un moment, les salaires n'augmentent pas et qu'on peut pas payer plus que ce qu'on peut. Donc, s'il y a des économies à faire, alors déjà, Monsieur le maire a dit qu'il était ouvert à tous les débats. Donc, il faudrait déjà voir avec Monsieur le maire s'il connaît l'histoire des doublons avec les communautés de communes, les communautés d'agglos, etc. Il y a beaucoup trop d'élus en France.
Et les agences de l'État. Et les agences de l'État qui doublonnent les ministères. Dans les ministères, il y a une agence de l'État à côté qui, parfois, fait un peu la même chose que dans le ministère.
Les sénateurs, les députés qui augmentent leur indemnité.
Bon, ça, on peut leur sucrer, mais ça va pas nous faire économiser grand chose.
Non, mais c'est pas leur sucrer. Mais au bout d'un moment, on demande aux Français de faire des efforts. L'effort doit pas simplement venir du peuple, il doit aussi venir de l'État. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi à l'État à montrer l'exemple. Dérembourser les médicaments. Alors, moi, je sais pas. Par exemple, j'ai mon fils qui a une maladie chronique. Son médicament, il coûte 5 000 euros. C'est-à-dire que je dois remettre combien sur le médicament ? Enfin, j'extrapole. Mais je veux dire, on n'a pas tous les moyens de pouvoir payer les médicaments, alors qu'il y en a à peine, ils arrivent à chauffer l'hiver, ils arrivent à peine à remplir le frigo. Enfin, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Je pense que le Français ne peut pas tout payer à lui tout seul. Et il faut aussi rappeler à Monsieur le maire qu'il y a eu une proposition de loi pour taxer les super-profits sur les grosses entreprises. EDF n'a jamais fait un bilan aussi énorme que dernièrement avec les augmentations de l'électricité, du prix de l'électricité. Total, qui fait encore des bénéfices records. Au bout d'un moment, faites payer ceux qui... Parce que attention, hein, y a quand même des sociétés qui ont eu le droit au CICE.
Oui,
d'accord,
bien sûr.
Donc c'est des aides, c'est des sociétés qui ont eu une aide de l'État.
Donc, vous avez vu d'ailleurs que l'État demande maintenant le remboursement des prêts qui ont été consentis pour le Covid. Et maintenant, ça rigole pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient étalé les remboursements. Là, maintenant, il y a beaucoup de boîtes qui sont dans le rouge parce qu'elles doivent rembourser, ce qui est normal peut-être un peu dur quand ça coule les boîtes.
Ça, c'était après. Les sociétés savaient bien qu'au bout d'un moment,
ils auraient dû rembourser.
Par contre, le CICE, c'était de l'argent qu'on donnait gratuitement à des sociétés.
Vous avez raison.
Combien on a donné aux entreprises françaises ? On a donné combien de millions, combien de milliards ?
Ouais, des milliards, ouais. Lisa Marie, Philippe, il y a beaucoup de bon sens d'ailleurs. Donc ce matin, Bruno Le Maire il signe un peu chez Amandine Bégaud sur RTL l'échec de ce gouvernement, parce que le déficit de la France qui était à 5,5 sur l'année 2023, c'est comme s'il le découvrait, il l'avait découvert ce matin, quoi, hier soir, en se couchant.
Oui, surtout pour faire des économies et baisser ce déficit à 5,5, vous le disiez. Eh bien, pour Bruno Le Maire, il ne faut pas de tabou. Il a évoqué la possibilité de rembourser différemment les dépenses de santé, puisqu'il n'est pas favorable à une hausse des impôts. Il a rappelé au micro d'Amandine Bégaud qu'il avait déjà décidé d'augmenter la franchise des médicaments de 50 centimes à 1 euro. Et ça a rapporté plus d'1 milliard d'euros à l'État.
Oui.
Mais alors attention, par rapport à ce que dit notre auditeur, pas question de moins bien rembourser les personnes qui sont gravement malade. L'idée de Bruno Le Maire, c'est plutôt de demander à contribuer davantage la personne qui est en bonne santé et qui consomme des médicaments ou qui fait beaucoup d'analyses médicales. Ce sont les mots du ministre de l'Économie ce matin sur notre antenne.
Et il est très axé médicaments. Écoutez d'ailleurs ce qu'il disait également à Amandine Bégaud ce matin, Bruno Le Maire.
On peut parfaitement faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français. Et je reste, c'est ma conviction, totalement opposés à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes, qui payent déjà un montant d'impôts qui est extrêmement élevé. Je refuse cette solution de facilité, qui est dans le fond le réflexe qu'on a depuis 30 ans ou 40 ans en France. Dès que ça va mal sur les comptes publics, on dit « c'est pas grave, les Français vont payer ». Les Français en ont assez de payer.
Oui, vous l'entendez, Bruno Le Maire n'est pas favorable à une hausse des impôts, mais il faut fournir des efforts dans d'autres domaines, par exemple la santé.
Ce que je trouve un peu, Philippe, je vais être franc avec vous, que les oppositions de droite, de gauche ont dit c'est un échec du gouvernement. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que depuis des années, quand on a un gouvernement en France, il y a les oppositions qui disent « oui, regardez, la justice, on manque de moyens ». C'est vrai, mais si on met plus de moyens à la justice, ça creuse le déficit. « Oui, la police, on manque de moyens ». C'est vrai. Mais si on donne plus de moyens à la police, on creuse le déficit. Ouais, et ça manque de moyens, ça manque de moyens. Il faut augmenter les infirmières, c'est vrai. Elles sont mal payées, les infirmières. Il faut les augmenter, oui. Mais si on le fait, ça creuse le déficit. C'est ça qui est terrible. Et non, les oppositions, aujourd'hui, elles disent « Oh ben, je comprends pas, vraiment, le gouvernement laisse filer les dépenses. » La réalité, c'est qu'elles demandent tout le temps qu'on sorte du pognon, et derrière, elles disent, ah ben dis donc, on en a sorti beaucoup trop, Philippe.
Non mais Eric, alors je vais me permettre de répondre à ce que vous dites par rapport au poste d'infirmière, et c'est vrai qu'on manque d'infirmières, c'est vrai qu'on manque de lits, on le sait.
Et qu'elles sont mal payées.
Voilà, mais qu'elles sont mal payées, sauf qu'au bout d'un moment, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que, intelligemment, alors le gouvernement, monsieur le maire, qui dit comme bon père de famille, il faut gérer, machin, sauf qu'au bout d'un moment, quand vous voyez qu'il faut, parce que, alors attention, alors je comprends bien que géopolitiquement, etc. C'est compliqué, mais qu'on injecte des milliards dans l'armée. D'accord ? Quand vous voyez, comme je vous disais tout au début, qu'il y a des doublons entre les communautés de communes, les communautés d'agglo, les machins, les trucs, enfin, au bout d'un moment, c'est une usine à gaz. Donc, plutôt que de créer des doublons, créer des trucs qui servent à rien, eh ben, il faudrait peut-être revoir un petit peu le fonctionnement du
Oui, mais on a besoin d'argent partout, par exemple. Vous avez parlé de l'armée. Avec ce qui se passe en Ukraine, on s'est rendu compte qu'on a baissé les budgets militaires de façon déraisonnable. Donc, tout le monde dit, les généraux, et les Français d'ailleurs, ils ont raison, moi aussi. Il faut remonter le budget militaire à 2% du PIB, mais tout ça, ça creuse le déficit. Donc en fait, on a besoin d'argent dans tous les domaines, mais malheureusement...
je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi quand on propose de taxer les multinationales qui font des bénéfices records, et vous pouvez regarder, depuis le Covid, il n'y a jamais eu autant d'argent dans les grandes sociétés, il n'y a jamais eu autant de bénéfices, pourquoi on ne va pas prendre l'argent là où il est, mais... en sachant que l'État leur a fait des cadeaux, comme je vous disais tout à l'heure, avec le CICE, avec les impôts.
Mais,
les
ouais, mais il faut, Philippe, vous avez raison, mais n'oubliez jamais qu'il ne faut pas exagérer. Je sais que le groupe LVMH, Bernard Arnault, il paie l'équivalent, je l'ai dit hier sur cette antenne, l'empreinte fiscale de LVMH, c'est le budget de fonctionnement du ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'il paie déjà beaucoup d'impôts. Je sais qu'on voudrait toujours leur en faire payer plus, mais un jour, on vit dans une Europe où la France est le pays qui taxe le plus. Un jour, les boîtes vont partir pas en Chine, hein, elles vont partir chez les voisins européens, parce qu'on est déjà le pays qui taxons le plus globalement. Peut-être pas les entreprises, mais on est dans la fourchette la plus haute. Hein. Donc je sais pas si c'est la solution. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30, Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Oui, bonjour, Muriel de Chevilly-Larue. Voilà, Bruno Le Maire suggérait que l'on lui donne des idées concernant les économies à faire. Alors moi, je propose que l'on fasse des économies déjà sur les salaires des ministres, sur les députés, et puis ensuite aussi les anciens ministres.
Muriel qui nous laisse ce message. Bien sûr, je le redis, tout ça ne serait que symbolique, car c'est pas ça qui nous remettrait dans les clous de la rigueur budgétaire ou du sérieux budgétaire. Mais enfin, oui, parfois il y a des symboles importants. Hein. Fabienne a fait le 32-10. Bonjour, ma chère Fabienne.
Bonjour, bonjour Eric.
Que faites-vous dans la vie, Fabienne ?
Je suis employée de maison.
Très bien. Alors, vous en avez entendu Bruno Le Maire. C'est vrai que du côté du médicament, il y a un tel effet de masse, le médicament, ça touche des millions de Français, qu'il y a moyen de faire des économies. Bon, voilà, on vous demande des efforts. Vous seriez prête, vous, à payer un petit peu plus sur les médicaments, Fabienne ?
Mais écoutez, moi, j'en fais déjà des efforts, je trouve. Hein. Actuellement, j'ai une dent de sagesse à me faire arracher. Quand je vois ce qui me reste à charge, ça me fait peur. J'y vais pas. J'ai mal, mais je reste comme ça. Puis maintenant, je cotise. Hein, on est d'accord, je cotise. Et là, maintenant, on va me demander de payer encore les médicaments. Ça va être selon, si j'ai bien compris, selon les revenus. Alors, moi, je suis au SMIC, donc est-ce que je vais en payer une partie? Est-ce que c'est les gens qui ne vont pas travailler du tout qui en paieront? Est-ce que, moi, voilà. Moi, c'est ça qui me dérange énormément. On nous demande à nous, hein, qu'on cotise déjà. On ne sait pas où passe notre argent, en plus de ça. Et on va nous demander encore de payer pour se faire soigner. Voilà, ouais. C'est terrible
ce que vous dites, parce qu'il y a la qualité des services publics. Vous savez qu'il y a un seul pays au monde qui dépense autant d'argent pour que les Français, à peu près, pour leurs services publics, c'est les Danois. Mais la grosse différence avec le Danemark, c'est que eux, ils sont contents de leurs services publics quand vous interrogez les Danois dans des sondages, etc. Alors que nous...
Ben non. Alors nous, on nous prend toujours plus, on nous demande toujours plus, et en contrepartie, on a une médecine qui tombe à l'abandon. Hein, et on baisse pas les charges. En fin de compte, rien n'est fait pour celui qui travaille. On va demander encore de continuer à payer. Voilà. Eux se permettent, je suis totalement d'accord avec l'auditeur qui est passé avant, parce que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Eux, ils se permettent des choses, ils s'augmentent, ils machin et trucs. Mais je suis désolée. Quand on demande des efforts, même si c'est pas beaucoup, parce qu'il nous l'a dit ce matin, de demander un petit peu, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup qui nous a dit. Eh ben, qu'ils fassent des efforts eux aussi, qu'ils s'augmentent pas comme ils se sont augmentés, même si c'est peu. Mais justement, nous, on nous dit que c'est peu, qu'on peut très bien cotiser. Ben, donner. Eh ben, qu'ils donnent eux aussi, même si c'est peu.
Ils ont un système de retraite très singulier, d'ailleurs, je crois, les parlementaires, par capitalisation. Ça, c'est assez fou, j'y pense, parce que c'est dingue. On est tous dans la répartition, et les parlementaires français ont un système de retraite par capitalisation, ce qui est absolument fou, alors qu'ils nous disent que c'est pas bien, la capitalisation. Ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu révolté, à vérifier, mais je pense que je ne me trompe pas. Fabienne, restez avec nous, surtout, je vous reprends juste après, mais Jean-Alphonse vient d'entrer dans le studio d'RTL. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour Eric Brunet.
L'heure du 14h30, le programme.
Je vous emmène en Chambéry avec l'affaire Ludivine Chambé, une aide-soignante de 30 ans. Alors sur le papier, c'est une tueuse en série, puisqu'elle a empoisonné 10 personnes âgées qui sont mortes. Elle dit qu'elle a voulu les soulager leur souffrance, évidemment. Alors ça ressemble comme ça à de l'euthanasie, sauf que ces vieilles dames et ces vieux messieurs, ils n'étaient pas du tout en fin de vie, ils n'étaient pas du tout grabataires. Alors pourquoi Ludivine Chambé a-t-elle abrégé leur vie? Est-ce que c'est par perversion, par ennui, ou parce qu'elle avait elle vivait un drame personnel avec la mort de sa mère? Que vont dire les enquêteurs là-dessus? Que vont dire les psys? Parce que ça, c'est important, les psys, dans cette histoire. Et puis, que vont dire les jurés? C'est l'affaire Ludivine Chambé dans l'heure du crime à 14h30. Vraiment très étonnante affaire, parce que là, on a affaire à une tueuse en série, sur le papier. Mais est-ce qu'elle en est une, vraiment?
Nous suivrons cela, bien évidemment, l'heure du crime dans une grosse demi-heure. Juste dans une petite minute, ce sera le rappel des titres dans Les Auditeurs ont la parole, et on continue sur Bruno Le Maire. Quelques appels, pas mal d'appels d'ailleurs, qui veut faire des économies. À tout de suite.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
RTL. Les Auditeurs ont la parole, il est 14h01. Avec Lisa Marie Marquez, c'est le rappel des titres. 3 personnes en garde à vue, 6 mois après la disparition de Lina.
Oui, c'est une première dans cette affaire. Lina, 15 ans, n'a plus été vue depuis le 23 septembre dernier. On a perdu sa trace alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Sainte-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Un homme a été interpellé ce matin en Alsace, puis un couple a été convoqué par les gendarmes de la section de Strasbourg. Ces 3 personnes sont à présent en garde à vue. Les enquêteurs veulent clarifier leur déclaration le jour de la disparition de l'adolescente.
Et puis, Lisa Marie, en Russie, il y a une nouvelle piste 4 jours après l'attentat de Moscou.
On a appris que les auteurs présumés de l'attentat avaient transité par la Turquie. Vladimir Poutine a par ailleurs qualifié hier soir les suspects d'islamistes radicaux, mais sans citer la revendication de Daesh. Aujourd'hui, le patron du FSB, les services de renseignement russes, continue de pointer du doigt la responsabilité de l'Ukraine et des Occidentaux. accusé d'avoir facilité la préparation de cet attentat qui a fait, je le rappelle, au moins 139 morts.
Et puis après la douche froide face à l'Allemagne, l'équipe de France de football reçoit le Chili ce soir.
Match amical de préparation de l'Euro à Marseille, l'occasion de se ressaisir après la défaite 2-0 face aux Allemands samedi dernier à Lyon. Et c'est Philippe Sanfourche qui vous fera vivre cette rencontre France-Chili en direct du Vélodrome avec l'équipe de RTL Foot, Eric Silvestro et Nicolas Georgerot sur RTL dès 20h45.
La météo.
Demain, mercredi, le temps restera très nuageux et pluvieux à l'est du Rhône, en Franche-Comté et dans le nord-est. Dans les autres régions, le ciel sera temporairement plus ensoleillé avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse en cours d'après-midi.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet. Ce matin, à 7h40, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était l'invité sur RTL d'Amandine Bégaud et il veut faire des économies parce que le déficit de la France est pharaonique, gigantesque. 5,5% du PIB, c'est quand même énorme. Et il propose qu'on rogne un peu sur les dépenses de santé, enfin en tout cas que les Français payent un peu plus. Jacques a fait le 32-10. Bonjour Jacques.
Bonjour Éric.
Alors, je vous écoute, vous avez fait le 32-10, qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
Moi je suis professionnel de santé sur le terrain, je suis pharmacien d'officine à la retraite et je suis amené à donner un renfort à mon épouse pour l'aider à exercer et à servir la clientèle,
oui.
Parce qu'il y a pénurie, parce qu'il y a des gens en arrêt de maladie, parce qu'il faut servir. Et ça fait quand même 40 ans que je fais ce métier. Et là, je vous avoue que j'ai un peu refroidi, parce que ce matin, j'ai fait un salto quand j'ai entendu Monsieur le maire, parce que open bar, ça descend pas. J'avoue que ça, je digère pas bien.
Oui, il alors a dit, c'était l'expression, il a dit, j'aimerais bien qu'on le réécoute, tiens, est-ce que Damien, qui est dans la régie, pourrait me remettre... Vous avez raison, la façon dont il a dit les choses, exprimé les choses, était un peu provocante, Jacques. Je vous redonne le micro tout de suite, mais on écoute ce matin Bruno Le Maire sur RTL.
Très concrètement, sur le médicament, désolé, le médicament, ça ne peut pas être open bar. Regardez tous les médicaments que vous accumulez dans votre pharmacie. Ça a un coût, c'est vous qui est payé, c'est le contribuable qui
paye.
Est-ce
qu'on peut imaginer des remboursements selon les revenus, par exemple ?
Je suis ouvert à tous les débats. Ce n'est pas à moi de trancher comment est-ce que les économies vont être faites. Ça doit être un débat collectif. J'appelle à une prise de conscience collective sur la nécessité de faire des choix dans nos dépenses publiques.
Jacques, open bar.
Oui. Alors, open bar, bon, regardez dans votre pharmacie. Je pense que M. Bruno Le Maire n'est pas dans la vraie vie, parce que si vous regardez dans votre pharmacie, de deux choses l'une, ou vous avez beaucoup de médicaments, ça veut dire que vous ne les prenez pas, ou vous n'en avez pas, ça veut dire que vous les avez pris, que vous êtes soigné. Parce qu'effectivement, on est professionnel de santé, le médicament est un produit qui est tellement habituel, tout le monde en prend, on croit que c'est un médicament, que c'est un produit familier, ça n'est pas familier, c'est un produit technique qui a nécessité la mise à disposition par l'intermédiaire de diplômés et compétents, j'imagine, hein, quand même, et on est également agent comptable de la Sécu, ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on délivre des médicaments, on a des règles, les gens le voient d'ailleurs maintenant au comptoir, ils savent très bien qu'on est soumis à des règles et on les fait respecter pour pas faire n'importe quoi, on a des délais à respecter entre deux délivrances de renouvellement, on a à compter les boîtes, on a à compter les comprimés, à vérifier que les posologies sont compatibles. On doit également vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité et de risque d'interaction. Ça fait partie de notre boulot. Mais quand on voit, quand on dit qu'il y a des médicaments dans la pharmacie personnelle, ça veut dire que les médicaments n'ont pas été pris parce que les boîtages sont faits de façon cohérente. Pour les traitements chroniques, c'est 28 ou 30 comprimés à raison de 1 comprimé par jour, par exemple. Et quand il s'agit de traitements aigus, si c'est un antibiotique, c'est 1 comprimé matin et soir, 7 jours, ce sont bien des boîtes de 14. Et si vous faites votre traitement, vous allez manger vos 14 comprimés. Il ne doit pas en rester.
Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Et moi, je, en vous écoutant, je réfléchis à ma pharmacie. Ce qui me reste, ce sont des médicaments qu'on peut acheter sans prescription médicale. J'ai des choses comme ça. Et de toute façon, une pharmacie, par définition, c'est un lieu aussi familial. Il y a des familles avec des adolescents, des enfants qui ont parfois des maladies récurrentes. Donc, il n'est pas illogique qu'il y ait parfois quelques boîtes de médicaments.
Tout à fait. Et d'autant que si c'est mal piloté par le chef de maison... Là, il peut arriver justement que vous vous retrouviez avec un vasoconstricteur qui a été délivré sous conseil du pharmacien et dans de bonnes conditions pour un jeune qui n'a pas d'hypertension artérielle ni de risque de faire des AVC, et que le grand-père qui a un rhume, il prenne ça, mais il a un problème de prostate et il a un problème d'AVC, et puis il subit les conséquences de médicaments mal consommés. Donc ça n'est pas innocent.
Jacques, j'ai un message à vous faire écouter qui vient de tomber là à l'instant sur le répondeur d'RTL d'une dame qui s'appelle Agnès.
Bonjour, je m'appelle Agnès, je suis infirmière libérale. Régulièrement, on s'offusque du gaspillage qui est fait en France au niveau des traitements. Je pense que le premier axe d'économie qui puisse être fait à ce niveau-là, ce serait déjà que les pharmaciens arrêtent de se comporter comme des commerçants et cessent de délivrer systématiquement la totalité des ordonnances aux patients. Ils se retrouvent avec des stocks de boîtes de Doliprane à domicile qui sont complètement délirantes.
Jacques, d'accord, je vous garde. Je vous l'ai mis de côté parce qu'il vient de tomber là à l'instant, ce témoignage d'Agnès. Vous allez répondre dans une minute. Ouais. Dans une minute, vous aurez le micro. À tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Jacques, pharmacien, est avec nous au 3210. Vous avez entendu, Jacques, le message d'Agnès, infirmière, qui dit, mais il y en a marre que les pharmaciens se comportent comme des commerçants, des dealers.
Éric, merci de m'avoir fait passer ce témoignage. Il est important. D'abord parce que bon, je connais les infirmières pour travailler avec elles et je travaille dans de très bonnes conditions. J'en ai en ce moment à la maison pour une personne âgée chez moi qui est très malade et je vois le travail qu'elles font et c'est admirable. Donc il faut pas regarder l'arbre qui cache la forêt et il est important effectivement de parler de Doliprane puisqu'elle en a parlé. Ce sont des boîtes de 8 comprimés, 3 par jour, ça fait 90 comprimés par mois, ça fait en gros 11 boîtes. C'est pas incohérent d'avoir 11 boîtes si le médecin prescripteur marque 3 comprimés par jour 30 jours aux personnes âgées. Donc ça peut paraître choquant, il se peut des fois que les clients ne le prennent pas. Mais nous, première chose qu'on fait quand on prend une ordonnance, on regarde l'historique et on voit ce qu'il y a en stock et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Donc peut-être que des pharmaciens plus ou moins indélicats feront un peu une démarche commerciale, mais c'est pas l'objet de mon appel aujourd'hui. Éric, je voulais parler surtout du compte de la Sécurité sociale et des chiffres que ça représente par rapport à ce que présente M. Le Maire. Est-ce que on peut aller dans ce sens?
Dites-moi.
Alors, M. Le Maire prend une pigne aujourd'hui, passez-moi l'expression toulousaine, il prend une pigne et puis il vient s'expliquer en disant j'ai une solution, et puis tout ce qui nous déballe, c'est de faire des économies sur le médicament. Moi, je prends ma calculette et tout un chacun peut faire la même chose. Je sais le chiffre moyen des pharmacies, je sais le chiffre moyen, le nombre de pharmacies qu'il y a sur le territoire, et croyez-moi que si c'était open bar, on serait pas passé de 23 400 officines à 19 966, on serait à 40 ou 60 000 pharmacies sur le terrain. Donc ça, c'est la première réflexion que je peux faire. La deuxième, c'est que avec un chiffre moyen multiplié par le chiffre d'affaires annuel de chaque pharmacie, on arrive à 47 milliards de chiffre d'affaires médicaments faits par les pharmacies. Sachant que 80% des médicaments sont vendus et le reste est de la parole, on tombe à 38 milliards de chiffre d'affaires de produits concernant donc les médicaments remboursables par la Sécurité sociale. Et sachant que la prise en charge de la Sécu est 60% globalement, on tombe à 22 milliards. Ces 22 milliards rapportés au budget de la Sécurité sociale branche maladie, qui est de 183 milliards, ça nous fait 12% du chiffre d'affaires de l'assurance maladie représenté par les médicaments. Et rapporté à la totalité du budget total de la Sécurité sociale, qui est de 474 milliards, source de l'économie.gouv.fr, 474 milliards, vous avez donc 22 milliards, ça fait finalement 4,83% du chiffre de la Sécurité sociale.
Oui, mais là nous, on n'a pas tous les critères de la branche vieillesse, tout ça, on ne sait pas.
Bien sûr, mais moi je vous ai isolé la branche maladie où on est encore qu'à 12%.
Il faudrait faire quoi pour qu'on soit... Il y a un autre sujet qu'il faudrait qu'on évoque aussi, qui n'a pas été évoqué, c'est le tourisme médical. Il y a des gens qui prennent 3-4 rendez-vous par semaine pour discuter avec des médecins généralistes. Est-ce qu'il faut faire payer le premier euro, tiens, de la consultation, Jacques?
Mais pourquoi pas, mais après, bien sûr, s'il y a un récidive, mais ça, la Sécurité sociale est tout à fait capable de faire...
Alors attendez, je fais tourner la parole, Jacques, on vous a bien entendu, vous avez été très clair. Nadine est là, mais restez, Jacques. Nadine, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Brunet. Alors, j'ai bien entendu Monsieur le pharmacien, j'ai bien entendu l'infirmière. Pour tous les deux, je suis à peu près d'accord, mais il y a une chose que je voudrais faire apparaître, c'est le mot collectif que Monsieur Bruno Le Maire a envoyé ce matin. Ce n'est plus une affaire individuelle ou par section de travail ou pas travail, etc. C'est, il faut que tout le monde, riche, pas riche, moyennement riche, puisse participer à ce relèvement de la dette. Et ça, c'est indispensable. Écoutez-le, c'est pas une personne, c'est pas 10 personnes, c'est l'ensemble de la France qui doit participer à ce relèvement de la dette avec le gouvernement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Oui, c'est vrai, mais ça veut dire qu'on doit tous participer, ça veut dire qu'on prend à notre charge une petite chose supplémentaire.
Absolument, ouais. Mais tous. Mais effectivement, je suis d'accord avec l'infirmière qui est passée avant, ouais, pour l'évolution des doliprane, mais s'il n'y avait que les doliprane, il n'y a pas que ça, ça c'est la partie sécurité sociale, mais après il y a tous les avantages qui puissent exister pour les gens qui sont à peu près, je dis bien à peu près dans le besoin. Ça c'est aussi une chose qu'il faudrait souligner, c'est qu'il y a des, je suis désolée, mais nous vivons dans une région où ben nous on a une petite Clio, voyez-vous, et 1500 euros par mois de retraite, j'ai 72 ans, et puis à côté de ça, il y a une grande famille, ouais, une super Tesla, c'est formidable ça. Comment font-ils?
Ben oui, mais ça...
Où je dis tout le monde doit participer. Et c'est là où je rejoins M. le maire.
Tout le monde en Clio. Marie-Odile a fait le 32-10. Bougez pas, Nadine, bougez pas.
Oui, je vous en prie.
Bonjour, Marie-Odile. Vous êtes, oui, où est-ce que vous êtes, Marie-Odile?
Moi, je suis dans la région brestoise, en Bretagne.
Où ça?
À Plougastel-Daoulas.
Ah, le pays des fraises.
Tout à fait.
Je vous écoute.
Des bonnes fraises. Oui, ben moi, j'ai fait un bon du lit ce matin. J'ai écouté Monsieur le maire. Et j'ai fait un bon quand il a dit, justement, pour les médicaments, que tout le monde doit participer, mais on va encore prendre sur les médicaments. Moi, je prends 4 comprimés le matin, 4 comprimés le soir, j'ai une injection tous les 15 jours. J'ai fait mon compte depuis ce matin sur ce. L'année dernière, j'ai dépensé pour ma santé 708,43 €.
Donc ça, c'est un reste à charge pour Marie-Odile.
Non. J'ai été remboursée de 500,02 parce que j'ai une mutuelle. D'accord. Que j'avais augmentée. Je paye de mutuelle 136,22 € par mois. J'ai une retraite, je paye des impôts. J'étais auxiliaire de puériculture à l'hôpital. J'ai travaillé depuis mes 18 ans. Je vais avoir 66 ans. Donc je paye 136,22 € de mutuelle, pardon. Donc l'année dernière, il m'a été resté à charge 208,43 €.
Oui.
Donc là, j'ai rapidement, j'ai fait des comptes. Le téléphone a augmenté. Le téléphone a augmenté de 20 € par mois. Donc si je déduis ces 208,43 € divisé par 12, ça fait 24 €. 24 € à rajouter par mois de frais. EDF, GRDF. Je suis passée ça me fait 26 € de plus par mois par rapport à l'année dernière. Sachant qu'il y a 3 ans, j'avais fait des travaux d'énergie, c'est-à-dire changer des fenêtres où j'avais un survitrage. La porte d'entrée, c'était une porte d'entrée, la maison était 79. La porte d'entrée était en bois. Quand il y avait l'humidité, elle coinçait.
Donc vous avez fait des travaux d'isolation.
D'isolation.
Et malgré ça, vous payez encore plus cher.
Je dépense un cinquième en moins d'énergie grâce à mes fenêtres et à mes volets roulants et à ma porte neuve et à la VMC qui a été posée, ce qu'il n'y en avait pas. Et puis, je ne sais plus si le pignon du mur à l'arrière, côté ouest, qui a été fait. Un cinquième en moins d'économie, sauf que je paye 300... je suis arrivée à, donc par mois, je ne sais plus...
Ça donc, Marie-Odile, vous êtes en train de m'expliquer, vous avez fait des comptes très précis, merci pour cette précision, que vous ne pouvez plus rien donner, voilà.
Rien que ça, là, les 3 trucs que j'ai dit, là, le EDF, GRDF, mutuel remboursement par mois, le téléphone par mois...
Vous voyez bien, Nadine, mais Marie-Odile, merci.
70 euros de plus que l'année dernière.
Vous voyez bien, Nadine, qu'il y a des gens, ça c'était Marie-Odile qui parlait, vous voyez bien, Nadine, qu'il y a des gens qui ne peuvent plus donner, hein, qui ne peuvent plus...
Oui, non, mais attendez, tout le monde est dans ce cas-là. Hein. Ouais. L'EDF est augmenté pour nous, l'eau est augmentée pour nous, enfin, tout ce que Marie-Odile a dit, je suis consciente, mais c'est pour tout le monde pareil. Donc pourquoi l'un ne participerait pas... Allez, si... Bon, là, on a augmenté de 50 centimes la franchise, mais pourquoi celui attention aux médicaments qu'on va chercher et qu'on n'en a pas besoin et qu'on laisse de côté. Et j'ajouterais une chose aussi, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que quand on allait reporter les médicaments à la pharmacie disait non, on ne les prend pas.
Oui, maintenant ils les prennent. Maintenant ils les prennent. Ouais, ça m'est arrivé récemment, maintenant ils les prennent. Bon, merci Nadine, merci Marie-Odile. En tout cas, Bruno Le Maire peut se gratter la tête parce que les Français sont pas tout à fait prêts à accepter qu'on rogne sur leurs dépenses de médicaments, hein, je peux vous le dire. Bon, il est 14h19 et je vois entrer Cyprien Signy dans le studio. Qu'est-ce que vous voulez, Cyprien?
Ben, vous vendre le programme d'RTL Bonsoir qui est assez exceptionnel ce soir.
Si c'est banal, vous me le vendez pas, vous rentrez chez vous.
Exactement, mais alors, François Civil, D'Artagnan, qui sera avec nous.
Immense acteur.
Ça, c'est énorme. Bon, il sera avec nous, il est au cinéma en prof. Il est beau en plus. Donc on aura François Civil avec nous, on verra également les derniers rebondissements dans l'affaire Lina avec le général François Daoust, spécialiste des affaires criminelles. Et puis comment Bruno Le Maire va-t-il combler les déficits, vous en parliez à l'instant, sans augmenter les impôts. Eh bien il y a Eli Cohen, l'économiste, qui va essayer de nous expliquer comment.
Je souhaite bonne chance. Bon, Lisa Marie, nous allons voir l'auditeur ou l'auditrice du bout du monde.
Oui, et comme tous les jours, un indice sonore pour trouver la destination de notre auditrice, parce que c'est une auditrice du bout du monde aujourd'hui. Et là on cherche le pays de notre auditrice du bout du monde. Vous avez trouvé la destination, vous nous écrivez tout de suite sur l'application RTL pour tenter de remporter un guide du routard.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Alors, les sirènes du port d'Alexandrie, Victor, est-ce qu'on a trouvé où nous allons?
Mais quelle question, évidemment, on part en Égypte et c'est Ouda à la Seine-sur-Mer qui remporte un guide du routard.
En route!
L'auditeur du bout du monde.
Et nous sommes avec Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Passez la tête par la fenêtre, Anne-Marie, et dites-nous ce que vous voyez devant vous, s'il vous plaît.
Ah ben moi je suis dans la verdure.
Vous voyez quoi?
C'est-à-dire, ben, je vois des plantes devant chez moi, des arbres. Je suis dans la verdure, moi, j'ai de la chance.
Vous êtes dans la verdure. Hein? Dites-moi, oui. Alors où êtes-vous en Égypte? Apparemment, vous n'êtes pas au Caire.
Non, je suis à Hurghada en mer Rouge.
Ah d'accord, en mer Rouge.
Il fait 26 degrés à l'ombre.
D'accord. Et que faites-vous là-bas?
Oh ben rien maintenant, je suis retraitée moi depuis longtemps.
Vous habitez...
Ça fait 32...
À 32 ans.
Oui, 32 ans que je vis là-bas.
Donc, et pourquoi Marie, vous vous êtes installée il y a 32 ans en Égypte?
Ah, la vie a fait que je suis restée une fois, puis voilà.
Hein? Ben formidable. Voilà. Mais, et vous avez travaillé ou pas, hein?
Là-bas, j'ai travaillé. Enfin, ici, en France, je travaillais, j'ai tout laissé. Et puis, j'ai travaillé au Mövenpick Luxor, dans un hôtel. Et puis, parce que j'ai habité 12 ans à Luxor. Et après, on est venu s'installer en mer Rouge. Et là, j'ai ouvert un commerce de vêtements que j'ai arrêté l'année de la Révolution, donc en 2011.
En 2011, voilà. D'accord. Comment est la vie en Égypte, alors, du côté de la mer Rouge?
Ah ben pour moi, elle est tranquille. Il y a une qualité de vie que je n'avais plus en France. Moi, c'est une vie qui me convient. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en Europe. Hein.
Oui.
Je viens vous dire ça. Hein.
Qu'est-ce qui change, si là venez... on vient de faire une émission sur les soins médicaux, la sécu, etc. Comment vous faites quand vous êtes malade, vous, en Égypte, Anne-Marie?
Eh ben, on va à l'hôpital, on est pris directement... en charge. On a des médecins plus ou moins bons, mais en général, moi, je n'ai jamais eu à me plaindre d'eux. Donc,
mais est-ce qu'il faut payer, Anne-Marie? Ça coûte combien?
Il faut payer, là.
Ah, moi, je paye plein pot, puisque de toute façon, je n'ai pas la sécurité sociale ici. Hein.
Et vous avez une assurance?
Non, j'ai rien du tout. J'ai la sécurité sociale qu'on me prend sur ma retraite, mais je suis assurée quand je suis en France, c'est-à-dire 5 jours par an.
Oui, si un jour vous avez, ça peut arriver, une maladie grave?
Ben écoutez, on fera avec. Hein. Pour l'instant, je touche du bois. Oui, non, on n'a pas d'assurance. Hein. Les trois quarts des gens n'ont pas d'assurance ici. Hein.
Bon, alors maintenant, parlez-nous de l'Égypte, du côté de la mer Rouge où vous habitez, et de ses plaisirs. Alors, faites-nous la carte postale, parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qui est chouette. Qu'est-ce que vous aimez?
Alors, Moi, ici, c'est le paradis des plongeurs. Mmh. Hein, il y a plein de touristes. C'est une station balnéaire. Hein, donc, tout est fait pour le touriste. Hein, il faut bien le savoir. Il fait beau, il fait chaud. Il y a la mer. Il y a tous les jeux de mer qu'on peut imaginer. Il y a beaucoup d'hôtels. Tous les hôtels sont en bord de mer. Donc, c'est une ville comme il y a, je suppose, en France. Une
station balnéaire. Urgada. H-U-R-G-H-A-D-A. Urgada.
Ouais, ouais.
Et c'est des touristes du côté de la mer Rouge qui viennent d'où? Enfin, d'un peu partout, mais les plus fréquents.
Beaucoup d'Allemands, des Français, mais beaucoup d'Allemands.
Hein. Oui.
Ouais. Des Allemands,
on
a beaucoup, beaucoup.
Je vais dire une bêtise, vous êtes loin de Sharm el-Sheikh?
On est en face de Sharm el-Sheikh, mais assez loin quand même.
Loin,
en face, il y a la mer Rouge qui nous sépare.
Hein.
Avant, il y avait un ferry, mais maintenant, il n'y a plus de ferry depuis des années qui faisait Sharm Hurghada.
Et Anne-Marie, je pense connaître la réponse, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous allez un jour rentrer en France?
Non. Non. Ma vie, elle est ici maintenant. Hein. Écoutez, ça fait 32 ans. Je suis déconnectée, moi, du système. Hein. Je fais plus partie. Ça me fait plaisir de venir, au contraire. Hein. Mais c'est plus ma vie.
Voilà.
C'est plus ma vie.
Encore une Française du bout du monde, une auditrice du bout du monde qui écoute RTL, mais qui ne rentrera pas. On vous embrasse très très fort, ma chère Anne-Marie de Hurghada.
Merci Anne-Marie.
Sur la mer Rouge, c'est chouette. Il y a des Français partout. On a envie de mettre des petits pins partout sur la carte du monde.
On devrait faire une carte. Hein.
On devrait faire une carte.
Map monde avec toutes les destinations des auditeurs du bout.
Jean-Alphonse, où allons-nous, nous ?
Chambéry.
À Chambéry.
Chambéry avec l'aide-soignante Ludivine Chambé. 10 personnes âgées empoisonnées, mais est-elle vraiment une tueuse en série? On s'interroge dans l'heure du crime.
On vous écoute, bien évidemment. Au revoir, Lisa Marie.
À demain.